BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi, bien évidemment, pour que vous soyez au contact de vos placements et des marchés. Direction donc une salle de marché. C'est Sarah Thirion qui nous attend chez TPIcap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, on marque le pas, on respire, on prend quelques bénéfices.
On prend des bénéfices. On a surtout eu vendredi des indicateurs américains qui ont à nouveau ravisé des inquiétudes s'agissant de la politique monétaire de la Fed. Il y avait le rapport de l'emploi du travail mensuel qui témoignait effectivement de création d'emplois qui était plus soutenue qu'attendue. Une inflation salariale qui était légèrement aussi au-delà des attentes. Et puis un ISM des services qui a renoué avec la croissance en janvier. Donc, à nouveau, de se retrouver face à ce dilemme s'agissant évidemment de la possibilité d'une moindre normalisation par les taux des banques centrales transatlantiques. On a beaucoup profité de d'un environnement imaginant les scénarios d'un atterrissage en douceur, de décélération de l'inflation, de cette moindre normalisation par les taux, de la réouverture en Chine, ce qui a porté les indices depuis le début de l'année dans des proportions qui sont quand même très consistantes. Et tout ça en occultant l'éventualité effectivement que ça prenne aussi du temps de faire décélérer cette inflation et qu'il puisse y avoir par moment des incertitudes sur cette trajectoire. Tout ça en occultant la stagnation de l'économie en Europe et aux États-Unis et l'incidence éventuelle d'une croissance restaurée en Chine qui viendrait abonder à l'inflation. Et donc, ça recrée des doutes à nouveau ce matin et peut-être aussi de se poser la question du fait que peut-être que la configuration de début d'année est celle d'un ce qu'on appelle un pen trade, qui est une tendance de marché qui inflige en fait, quand le marché monte beaucoup, qui inflige un maximum de pertes ou de sous-performances à un grand nombre d'investisseurs qui du coup se voient obligés de courir derrière la performance pour ne pas manquer cette tendance et donc d'abonder à la hausse des marchés. Donc on est dans cet environnement. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, ça va être light, mais vous savez que demain, on a une intervention de Jérôme Powell qui pourrait à nouveau donner des indications. Et puis, ça se traduit dans les marchés avec effectivement donc une baisse des indices européens. Quand on a Orange en tête du CAC 40, c'est déjà le signal de la déshérence des marchés. Et donc, aujourd'hui, on voit que tous les secteurs sont dans le rouge sur l'Eurostox, notamment la tech, l'immobilier, le luxe, les basic resources et le retail, avec cette perspective effectivement de poursuite de hausse de taux et puis aussi les tensions sino-américaines qui s'aggrave après l'histoire du ballon qui a survolé les États-Unis et qui recrée évidemment un scénario un peu moins, on va dire, aimable entre les deux géographies. Et donc une rencontre qui est annulée du côté du secrétaire d'État américain qui a reporté effectivement son voyage et puis une réponse des Chinois qui considèrent que la réaction est parfaitement exagérée du côté US.
Bon, voilà donc pour jeter un petit œil sur ce marché. Après, on peut dire quelques commentaires peut-être sur Rémy Cointreau à l'occasion de l'expression de son CEO.
Exact. Il est intervenu dans Investir du week-end, rappelant effectivement qu'on avait une normalisation des tendances de consommation après deux années extraordinaires, notamment aux États-Unis, et que ça devrait se prolonger jusqu'à l'été 2023, ce qui veut dire qu'on aurait un retour de la croissance au S2 de l'exercice 23-24 du groupe aux États-Unis. A cependant confirmé que l'exercice en cours serait en croissance organique de 10%, et de vous rappeler d'ailleurs que ce sera un exercice record en chiffre d'affaires, en marge brute et en marge opérationnelle courante, et d'anticiper donc l'année prochaine, en 23-24, puisqu'ils sont en exercice décalé, un S1 qui sera encore compliqué par cette normalisation aux US, et des effets de base élevés, et un S2 qui sera de meilleure facture. En tout état de cause, le groupe réitère surtout ses ambitions 2030, et donc effectivement, on peut se projeter sur cette histoire 2030 du groupe, qui devrait effectivement permettre à Rémy Cointreau d'exprimer une meilleure marge opérationnelle consolidée grâce effectivement à l'effet de levier qu'on peut avoir sur la marge de la branche liqueur et spiritueux et toute une stratégie de valeur qui est mise en place par le groupe. Voilà, donc on a eu cette confirmation ce week-end.
Merci beaucoup Sarah Thirion, donc TPIcap ce matin avec nous. Le marché parisien qui reste pour le moment donc malmené, moins 45%, 7128 points. Et tout de suite, c'est toute l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et elle a une Les mois de discussion, Renault et Nissan refondent leur alliance. L'accord acte un rééquilibrage des relations capitalistiques. Renault et Nissan vont chacun détenir 15% du capital de l'autre et le japonais va investir jusqu'à 15% dans Ampère, l'entité électrique du français. Des projets industriels communs sont aussi relancés, notamment en Inde et en Amérique latine, avec à la clé plusieurs milliards d'euros de synergies, de coûts et de revenus d'ici 2030. De quoi gagner en agilité, selon le directeur général de Renault, Luca De Meo.
Nous nous sommes mis d'accord sur la possibilité par Renault de réduire cette participation, ce qui nous permettra de garder notre agilité et d'optimiser notre affectation du capital. L'étage intermédiaire de cet accord vise pour Renault à regagner une certaine agilité stratégique sans nécessairement mettre à mal les efficacités et les synergies qui existent.
Luca De Meo, qui sera l'invité de Good Morning Business demain, ce sera à 8h15. Et mercredi, notez qu'Edwige Chevrillon reçoit Jean-Dominique Senard, ce sera à partir de 19h30. Ce coup de théâtre chez Eurazeo, la dirigeante Virginie Morgon est poussée vers la sortie. Conséquence de dissension avec le principal actionnaire, la famille Decaux, qui souhaitait son départ. Elle est remplacée par deux présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassin. En Allemagne, les commandes industrielles repartent à la hausse en décembre. Elles progresse de 3,2% sur un mois, une reprise qui compense le fort recul du mois de novembre alors que la crise énergétique plombait les carnets de commandes. Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Habeck seront à Washington demain. Ils vont tenter d'obtenir des concessions sur le champ d'application du plan anti-inflation américain qui totalise près de 400 milliards de dollars de subventions. Les deux ministres vont défendre le principe de transparence pour éviter une course folle aux subventions de part et d'autre de l'Atlantique. On en vient à cette crise diplomatique entre Pékin et Washington. L'armée américaine a abattu samedi en Caroline du Sud un ballon chinois considéré comme espion. Dans la foulée, le chef de la diplomatie américaine a annulé à la dernière minute sa visite en Chine. Pékin assure qu'il s'agit d'un aéronef civil et accuse les États-Unis d'avoir surréagi. Les relations entre Washington et Pékin sont gravement affectées et endommagées, selon la Chine. En France, l'exécutif lâche du lest sur la réforme des retraites alors que le texte arrive en débat à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne propose de nouvelles concessions pour obtenir l'adhésion des députés LR. Sur les carrières longues en particulier, les salariés qui auront commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront eux aussi partir plus tôt à 63 ans au lieu de 64. Cela concernera jusqu'à 30 000 personnes chaque année pour un coût estimé entre 600 et 1 milliard d'euros. Et puis, une troisième journée de mobilisation contre cette réforme est programmée demain. À l'appel de tous les syndicats, le trafic sera fortement perturbé pour les TER, les TGV, métro et RER. Et puis, dans les airs, un vol sur 5 est annulé à Orly. Et à la RATP, l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à reconduire la grève ce samedi.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, chaque heure pour lire l'actualité économique. Et nous, tout de suite, on retrouve Regards Croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regards Croisés.
Regards Croisés qui accueille ce matin Damien Dirix. Bonjour Damien.
Bonjour Cédric.
Et Jean-François Robin. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous les deux.
Et Damien pour Exane AM, Jean-François pour Natixis. Bon, ce matin, on pourrait se dire, ben non, finalement, on ne voit pas la vie en rose, on perd du terrain. Malgré tout, on est quand même tout près de nos plus hauts absolus sur le CAC. Je ne vous parle pas du S&P 500 qui n'est pas loin d'avoir réussi le meilleur mois de janvier depuis des années. Est-ce qu'on a trop chaussé nos lunettes roses, Damien ?
Je pense qu'il y a un effet FOMO, on y revient. C'est-à-dire Fear of Missing Out.
Avoir enterré Tina.
Et voilà, on a enterré Tina. Mais là, sur ce qui se passe, il me semble, il est assez clair quand on voit beaucoup d'enquêtes de positionnement d'investisseurs, on voit bien qu'ils étaient assez peu exposés au marché. Action ces derniers temps. Disons qu'à partir de la fin de l'année dernière, il y avait eu quand même une pause qui avait été faite par pas mal d'investisseurs, après le rebond qui avait été assez violent depuis les points bas de septembre. Et là, on voit bien qu'effectivement, on est un peu dans cette course au je loupe la hausse, et qui est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gestions qui sous-performent en janvier, parce qu'elles, justement, elles ne sont pas exposées à ce marché. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un deuxième élément à suivre, c'est que Vous voyez, c'est le Nasdaq qui tire vers le haut. Hein. Il est à plus 14 depuis le début de l'année. Pour moi, c'est assez clairement l'effet des taux qui ont beaucoup baissé, en fait. Hein. Le 10 ans américain a beaucoup, enfin, moi, je trouve, a beaucoup baissé depuis le début de l'année. On pourra discuter sur est-ce que c'est bien sérieux, d'ailleurs. Et il y a un effet de reprise de ce côté-là sur les valeurs technologiques qui avaient été très, très massacrées l'année dernière.
Comment voyez-vous les choses ? On est trop optimiste, les marchés, on veut trop y croire.
Mais paradoxalement, je crois que c'est aussi, il faut regarder les choses avec un petit peu plus de longueur de temps, je pense. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est quand même la pire année pour les marchés financiers depuis 1937. Quand vous prenez un combo action-taux, on n'a jamais vu ça depuis les années 30. Donc vraiment, un marché qui était hyper, hyper négatif avec... paradoxalement, une économie qui s'est très très bien tenue. Encore une fois, 3,5% de croissance en Europe, 2,6% en France. On a créé, voilà, mine de rien, 1 million d'emplois, 3 millions d'emplois en Europe, quasiment 1 million en France. En fait, 2022, c'était une super année macroéconomique, paradoxalement, et la pire année pour les marchés. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que cette année va être probablement une mauvaise année macroéconomique, mais plutôt une bonne année pour les marchés, parce qu'évidemment, les marchés regardent un petit peu en avance. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que probablement le gros du choc, il est sur 2023. Mais qu'en 2024, le choc, c'est-à-dire l'inflation, la réaction hyper violente des banques centrales, là aussi, hein, ce qu'a fait la BCE la semaine dernière, ou la Fed, c'est des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de la BCE. On l'avait déjà vu aux États-Unis, mais dans une période beaucoup plus longue, donc dans des trucs inédits. Eh bien, tout ça s'arrête en 2024. Donc, il y a quand même de bonnes raisons de penser que l'économie va faire un petit V, quand même, une espèce de, allez, un petit Nike, quoi, qu'on va rebondir un petit peu moins fort, mais probablement, dans nos comptes, on a une économie européenne qui va être à genre 1,8 de croissance l'année prochaine. Donc, un vrai rebond l'année prochaine. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de jouer par les marchés. Puis, vous voyez, un truc qui était assez peu vu, on en a déjà parlé plein de fois ici, mais le rebond de la Chine va être quand même extrêmement fort. On a quand même, c'est pas le monde qui s'arrête, hein. L'Europe, les États-Unis ralentissent parce que choc monétaire, choc d'inflation. Mais qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que le reste du monde redémarre avec la Chine. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, l'inflation baisse très vite. Et donc cette espèce de choc très négatif sur le pouvoir d'achat va plutôt même s'inverser, c'est-à-dire que finalement on va retrouver des salaires réels qui vont progresser en deuxième partie d'année. Donc on a quand même des raisons de penser que voilà, c'est pas un territoire trop négatif. Et regardez ce qui se passe encore là, c'était sur votre bandeau à l'instant, hein, on révise à la hausse les commandes industrielles, on révise à la hausse la production industrielle en France, en Allemagne, donc on a des choses, on est au plus bas sur le taux de chômage aux États-Unis vendredi de l'histoire. Donc c'est pas un scénario du pire, hein, qui est en train de se dessiner. Donc les marchés sont très optimistes. Mais ils ont des raisons de ne pas être trop négatifs, ça c'est sûr.
Bon, malgré tout, il faut quand même parler des banques centrales. Elles ont occupé le devant de la scène d'abord... d'abord à Davos et puis la semaine dernière, vraiment avec leur réunion. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ces banques centrales?
Et là, elles font exactement ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient. Là, pour le coup, c'est assez clair. Le discours de Powell n'a pas changé. Il faut continuer à monter les taux, même si on a des signaux positifs.
Mais ça veut dire qu'il va devoir pousser plus loin que prévu, les feux?
Alors, plus loin que prévu, c'est pas le discours. Le discours, c'est qu'il y a encore besoin de faire... Enfin, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore besoin de faire 25 centimes à la prochaine réunion de mars. On sait pas trop sur celle de mai. Et après, il y a besoin quand même d'avoir un plateau sur ces taux, parce que, pour lui, le sujet, c'est l'inflation des services. Puisqu'il a déjà, il a expliqué, hein, l'inflation dans les biens, effectivement, hein, c'est en train de rebaisser assez nettement. Les supply chains qui s'améliorent, merci la Chine, qui se réouvre, ça, évidemment, c'est positif. Et c'est plutôt désinflationniste sur ce plan-là. Par contre, lui, son problème, c'est l'inflation salariale qui est toujours relativement élevée, on l'a encore vu sur les chiffres de vendredi, et qui, pour lui, ne permettent pour le moment pas à l'inflation dans les services. C'est quand même 40% de ce qu'il regarde dans ce qu'on appelle le corps PCE. Mm-hmm. Pour le moment, ne ralentit pas, voire accélère encore un petit peu. Et donc, pour lui, le message, c'est qu'il va falloir faire des taux plus longs. Il y a bien un gros problème entre ce que raconte la Fed et ce que voient les marchés. Parce que, et il l'a dit, mercredi dernier, il a dit qu'il y a a priori un problème entre l'hypothèse que prennent les marchés sur la baisse rapide de l'inflation, ce que tu évoquais, et ce que voit la Fed pour le moment. Alors, ils sont aussi obligés d'avoir leur posture et de tenir ce qu'ils ont prévu de faire. Mais le marché, encore une fois, dès septembre, hein, quand vous regardez les futurs de taux américains, dès septembre, le marché voit une baisse des taux de la Fed dès le mois de septembre. Ce qui, à cette heure-ci, paraît improbable au vu de ce que nous raconte la Banque centrale.
Oui, bah, moi je suis assez d'accord avec ça.
Qui va gagner en fait entre les marchés justement qui voient quelque chose et le patron de la Fed qui en préconise une autre.
Bah, en général, vaut mieux, faut mieux pour écouter celui qui tient le marteau. Malheureusement, en fait, depuis quand même quelques années, c'est quand même souvent le marché qui a raison. Et donc, en l'occurrence, moi je pense pas que ce soit très optimiste, enfin très réaliste de penser comme le marché qu'on va avoir une baisse des taux. En revanche, quand la Fed nous dit qu'elle va à 5,25 et que finalement le marché pense qu'on va plutôt à 5, ce qui est notre scénario chez Natixis, ça me semble assez raisonnable. Et j'ai envie de dire, à 25 BP près, quand vous êtes monté de 500 BP, ça ne changera pas la donne. La big picture, entre guillemets, hein, quand même, je pense qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la fin du cycle de hausse des taux des États-Unis. Ça, c'est vraiment le pivot. On y est très très proche. Si ce n'est pas mars, ce sera mai. Mais en tout cas, à la fin du deuxième trimestre, on sera largement, on aura derrière nous les hausses des taux américains. La vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'ils vont baisser les taux par la suite. Et le marché pense
que 2024,
voilà, moi je pense que là aussi, si on un peu on dézoome un petit peu, la question est-ce qu'il baisse en septembre, en décembre ou en mars, je sais pas. Nous en fait, ce qu'on price quand même, c'est ce qu'on intègre dans nos comptes, c'est plutôt qu'ils vont baisser les taux de 150 points de base en 2024 et pas en 2023. Mais la réalité pour les actifs risqués, pour les actions, pour les valos, etc., elle est que les taux d'intérêt américains vont bientôt arrêter de monter et vont baisser. Le prochain mouvement sera une baisse là. Le timing effectivement pose question, mais ça va baisser. Vous pouvez pas garder vos taux à 5 ou 5,25 quand vous avez une inflation qui est en train de baisser quand même très fortement, hein, on est passé de 9,2 à 6, et on parlait d'inflation salariale, mais elle ralentit hyper fortement, hein, vous avez encore des pertes de pouvoir d'achat très fortes, puisque vous avez beaucoup moins de salaire que de hausse des prix. Donc on est bien en train de perdre du pouvoir d'achat aux États-Unis. Et donc en fin d'année, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va avoir une inflation américaine qui va être entre 2,5 et 3%. Hein, on vient de 9, donc on a une inflation qui est divisée par 3. Vous ne pouvez pas garder vos taux d'intérêt à 5%. Ou 5,25, quand vous avez une inflation qui sera à 3. Donc, il y a un moment ou un autre, vous aurez quand même des États-Unis qui vont baisser leur taux de l'année prochaine. Et ça, les marchés sont en train d'essayer de mettre le curseur, mais je pense que c'est quand même ça qui va se passer. On ne va pas garder des taux très élevés hyper longtemps, peut-être 6 mois de plus que ce que pense le marché, mais nous, on pense que dès 2024, on va baisser les taux. Ça semble raisonnable. On ne va pas garder les taux à 5% quand vous allez faire 0,5 de croissance cette année ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que les marchés aujourd'hui, c'est ça la différence avec la Fed, ils pensent à une récession. Vous avez encore 70% des économistes qui pensent qu'il y a une récession. Nous, on le dit, hein, il n'y aura aucun pays de la zone euro qui sera en récession cette année, et il n'y aura pas de récession aux États-Unis cette année non plus. Aujourd'hui, les chiffres américains, de l'ISM ou que ce soit de l'emploi, ça ne valide pas du tout pour l'instant un atterrissage crash de l'économie américaine. Ça valide un gros coup d'arrêt, hein, mais pas une récession.
Du coup,
la question, c'est est-ce qu'il sera assez suffisant pour que la Fed trouve.
Qui, Jérôme Powell ?
Que Powell voit la baisse des salaires ou quelque chose qui s'améliore sur le fond de l'emploi.
En ce moment, encore une fois, Damien, les salaires, ils étaient à 4,4, ils viennent de 6, donc ça ralentit très fortement, bien, donc beaucoup moins que l'inflation. Et quand vous prenez l'indice préféré de la Fed, l'ICE, hein, donc le coût du travail unitaire, quelque part, il a 1. Donc on ne peut pas parler d'inflation salariale aux US. Donc ça, ils ne peuvent pas être inquiets de ça. Ils peuvent être inquiets de la propagation au prix des biens et des services. Mais honnêtement, vu la baisse de tout, encore ce matin, vous voyez, le prix du trafic maritime, ça y est, ils sont des pré-crises énergétiques, non seulement, mais on est au niveau de la pré-crise Covid. Quoi. Donc, ça y est, c'est terminé. Quoi. Il y a plein de trucs. Les prix de l'acier qui rebaissent, les prix du riz, du blé, moins 40%. Enfin, il y a beaucoup de choses qui devraient maintenant se retrouver dans les prix, bientôt, au deuxième semestre, quand même. Hein. Donc, le choc inflationniste, je le répète contre vent et marée, mais je pense qu'il est derrière nous. Quoi.
Ça, c'est le versant américain.
Et c'est là où c'est plus compliqué sur la BCE.
Et chez nous ?
Puisque là, on a un sujet, c'est que la BCE est extrêmement ferme sur 50 centimes, re-50 centimes, et s'il faut, on en remettra encore. Alors qu'effectivement, l'inflation, on voit qu'elle est en train de rebaisser un peu partout. Notamment sur les biens, enfin ça me paraît une évidence.
Y compris en Europe.
Y compris en Europe, oui, on est en train de redescendre. Alors le problème de l'Europe, c'est qu'on a, sur certaines zones, tu me diras si je me trompe, mais on a certaines zones où on a une inflation core, donc hors énergie, alimentation, qui est encore au-dessus là de notamment l'Espagne, qui est très au-dessus de la l'inflation en général. Et donc là, la question, c'est est-ce que ça va vraiment ralentir ? Et c'est le deuxième sujet de la BCE.
Mais typiquement des pays comme l'Espagne, c'est très intéressant comme parce que globalement le seul pays où l'inflation remonte en ce moment, c'est la France, parce qu'on a arrêté de faire des gels des prix des énergies carbonées, etc. Donc effectivement, ça remonte dans les indices. Donc nous, la France, on avait l'inflation la plus basse d'Europe, 3,5 inférieur au reste de la zone. On est en train de remonter, mais le reste de la zone euro baisse très très fortement, puisque voilà, on passe de 17 au plus haut, là on est déjà passé sous les 9. Et le pays comme l'Espagne est très intéressant, c'est le pays qui est à 12% d'inflation.
C'est-à-dire que nous, en fait, on paye un peu le contre coup de ce qui nous a protégé.
Le gel des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, quand vous avez plus 15 sur votre facture, sur le prix de l'électricité, ça devrait être plus 50 ou plus 100% qu'on aurait dû avoir, mais comme on ne l'a pas eu, on la propage dans le temps plus longtemps que le reste de l'Europe. Mais un pays comme l'Espagne, on est à 12% d'inflation, ça y est, on passe à 5, quoi. Donc c'est déjà une énorme baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui a augmenté les salaires, le salaire minimum de 48% depuis 2 ans, on l'a augmenté encore de 16%, mais c'était des pays, contrairement à la France, qui avaient un salaire minimum très très bas par rapport au salaire médian. Donc ils ont toujours un salaire minimum inférieur au SMIC français quelque part. Mais ce qui est hyper intéressant, ça se transmet au prix des services, mais pour autant, finalement, l'inflation salariale et l'inflation globale est en train de baisser. Et donc il n'y a quand même pas non plus cette boucle prix-salaire. Les salaires bas montent, mais il n'y a pas de phénomène de généralisation de l'inflation. Donc cette espèce de débat qu'on pouvait avoir d'une boucle prix-salaire, d'un nouveau régime inflationniste, est quand même en train d'être invalidé par ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et c'est ça qu'achètent aussi les marchés, c'est que les banques centrales, elles vont pas avoir besoin de monter les taux de façon 70s, quoi. On n'est pas retour aux années 70.
Voilà donc pour les banques centrales. Malgré tout, il y a entre nos deux grandes banques la question de la devise, du change. Et là, il y a des plus hauts de plusieurs mois qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette parité?
On est clairement en train de repartir dans l'autre sens, mais là aussi, il faut faire référence avec exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que vous avez une BCE qui est extrêmement ferme, dans son discours en tout cas, qui met 50 centimes sur la table, là, qui va les remettre sur le prochain, et encore une fois, qui dit qu'elle est capable de faire encore s'il faut, même si elle dit que les choses vont un petit peu mieux sur le front de l'inflation. Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez le sentiment clair du marché, en tout cas, que ça y est, c'est fini aux US et qu'on est en train de passer la colline. Et du coup, vous avez ce différentiel qui se joue sur les taux d'intérêt et sur les sentiments, et donc ça se reflète dans la valeur de l'euro.
Oui, je crois que c'est pas fini. Nous, on a un objectif d'un euro à 1,15, donc on est vraiment dans le haut du consensus. Mais je pense que là aussi, je suis assez confiant là-dessus. En fait, on a ce que dit Damien. Ce qui a beaucoup aidé, il y a deux choses qui ont soutenu le dollar. C'est le différentiel de taux qui est en train de s'inverser en faveur de l'euro. Mais il faut aussi intégrer ce différentiel au-delà de l'euro. C'est-à-dire que vous voyez toutes les devises du monde qui sont en train d'avoir des raisons de s'apprécier contre dollar. Regardez au Japon ce qui est en train de se passer. Même si un gouverneur dovish, à la fin, ils sont vraiment en train de sortir à leur tour de la politique de quantitative easing massif. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils montent plus aussi. On a à peu près tous les pays qui sont en train de monter leur taux. La Chine, typiquement, qui va avoir 5,5%, peut-être 6% de croissance cette année, elle va avoir moins besoin d'appuyer sur le coup d'accélérateur monétaire, donc elle va moins baisser ses taux que prévu puisque la croissance repart toute seule. Et donc tout ça, c'est plutôt favorable à des devises qui vont s'apprécier collectivement contre dollar. Et ça, c'est hyper favorable aux émergents, encore une fois. Donc un dollar qui s'apprécie moins, des taux américains qui arrêtent de monter, ça va être favorable aux économies émergentes et donc aux devises émergentes. Donc on est quand même sur un moment de renforcement de toute devise contre dollar. Ça, c'est au court terme. Ce qui a hyper pesé sur l'euro, c'est que nous, on importait massivement des prix de l'énergie. Donc on a eu toutes nos balances commerciales courantes qui sont passées en négatif. Mais encore une fois, vu que les prix de l'énergie s'écroulent, on va retrouver quelque chose. Songez que la France, on a payé 100 milliards de factures énergiques l'année dernière. On a importé 100 milliards d'énergie fossile. Enfin, c'est un peu débile et hyper coûteux. On est à 400 milliards sur le niveau zone euro. Donc ça, c'est quand même en train de s'inverser. Et donc la balance courante qui a plombé l'euro l'année dernière, à le faire passer sous la parité, là aussi, ça va probablement s'améliorer. Et puis troisième point, c'est la dédollarisation du monde, qui, je pense, un truc qu'on essaie de se sortir du dollar. Encore une fois, je pense que c'est plus du rêve qu'autre chose, mais le sur entre la valeur en Amérique latine, entre l'Argentine et le Brésil, ça fait partie de ce débat-là, de se dire, on veut un peu, on a vu ce qui s'est passé avec l'instrumentalisation du dollar, on veut sortir du dollar, en Russie, en Chine évidemment, mais en Turquie, on voit les achats d'or qui montent. Voilà, dédollarisation du monde, ça se rajoute à ces deux facteurs de différentiel de taux et finalement de balance courante qui était très plombée par l'énergie. Tout ça, c'est pas favorable pour le dollar.
Bon, vous êtes passionnant, mais le chrono tourne à toute allure. Il nous reste une minute et quelques pour dire un petit mot justement du choix de classe d'actifs. Les entreprises, par exemple, pour votre cas,
eh bien,
à vous,
c'est assez
qu'est-ce
intéressant
qu'on en
pense ? Parce que là, on est en pleine période de publication des résultats du quatrième trimestre. Et une fois de plus, j'allais dire, les nouvelles sont bonnes. C'est-à-dire que on a tout un panel de sociétés qui publient. Alors, encore une fois, moi, je regarde des valeurs industrielles. Mmh. Et ce qu'on voit jusque-là, c'est très peu de warnings. Ou alors, quand il y a des warnings, c'est des choses qui sont très spécifiques. Il s'est passé quelque chose de spécifique dans une société qui n'est pas, qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas utiliser partout ailleurs. Et quand même, moi, ce qui m'a frappé la semaine dernière, par exemple, c'est SKF. Donc une valeur très cyclique, très industrielle, hein, avec une grosse poche européenne de business.
Les roulements à billes.
Les roulements à billes, absolument, leader mondial, qui a sorti un résultat du quatrième trimestre qui était bien meilleur que les attentes. C'est une première chose, hein, 10% de croissance, on ne s'y attendait pas. Et puis surtout, ils nous disent, bah, ça y est, on a enfin réussi à faire passer nos prix au niveau de l'inflation de nos coûts. Donc les marges étaient bien meilleures que ce qu'on pouvait en attendre. Et alors, la cerise sur le gâteau, et là, je pense que le marché s'y attendait pas du tout, d'où un rebond de presque 10% dans la journée sur ce titre. C'est que, en fait, il prévoit pour le premier trimestre à nouveau une croissance, alors dans le langage suédois, mid-single digit, donc entre 5 et 8%, et sur l'année, de la même façon. Le marché s'attend à moins 3 sur cette société. Mmh. Donc, vous voyez, le sentiment des industriels, il est assez fort et assez positif. Si on veut contrebalancer un peu ça, on regardera un ABB où toutes les sociétés qui, elles, diffusent un carnet de commandes, hein, parce qu'un SKF ne diffuse pas de carnet de commandes, et sur ces sociétés-là, les Epiroc, les ABB, encore une fois, qui ont publié la semaine dernière, là, elles n'ont pas très bien réagi en bourse, parce qu'en fait, tout était bon, chiffre d'affaires, marge, free cash flow, à peu près bien, mais les carnets de commandes commence quand même à pâtir un petit peu des très très bons niveaux qu'on avait eu l'année dernière. C'est ça aussi. Hein. C'est ce qui va être compliqué dans les mois qui viennent, c'est qu'on va se comparer à des choses qui étaient extraordinaires en termes de commandes. Et donc le marché pourrait se dire bon, bah, peut-être que quand même, le ralentissement, il y a bien, puisque on voit bien que les carnets de commandes sont en train de se tasser.
Jean-François, comment on fait son marché entre actions, obligations ? Vous nous avez un peu dit, effectivement, l'état de 2022, mais 2023
2023 était très rapide, quand même. C'est-à-dire que nous, on a typiquement atteint nos objectifs, mais je suis sûr que chez Damien, ça se retrouve. On a atteint nos objectifs de fin d'année, là, maintenant. Donc, on a envie de dire, quand même, prudence, parce qu'on est sur un ralentissement, etc. Mais, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort de la synchronisation du monde. Avec le Covid, tout le monde a ralenti en même temps, redémarre, etc. Les banques centrales font toutes la même chose. Alors, je citais l'exemple de Chine, j'en reviens, là. Et on voit bien qu'il y a un redémarrage très fort de la Chine, qui pourrait terminer l'année à des 9% de croissance. Donc, c'est-à-dire que toute l'Asie du Sud-Est, on a un pays comme l'Inde qui continue à carburer, l'Indonésie, plus de 5% de croissance encore, là, publié ce matin. Donc, on a toute une partie du monde qui est assez forte. Et donc, dans cette partie du monde, bah, les actions sont énormément rebondi, mais elles sont finalement pas si chères que ça, hein, même en termes de PE, de prix sur les bénéfices, hein, on a des choses à regarder. Et puis toutes les cycliques, finalement, dans ces pays-là, contrairement à ce qui se passe en Europe, vont plutôt bénéficier, le transport aérien, des choses comme ça. Donc je crois que c'est assez intéressant, parce qu'il y a des choses très très différenciées. On a envie plutôt d'être prudent sur les cycliques en Europe, et plutôt dans ces pays-là, sur les émergents, de jouer le rebond. Donc je crois que c'est quand même très très intéressant, faut avoir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus large que ce qu'on avait, et finalement être en fonction des zones géographique et en fonction des secteurs, être beaucoup plus regardant. Donc ça, c'est le rôle de vos conseillers et gérants, d'aller choisir les bonnes valeurs en jouant sur des tendances de fond. On voit bien l'accélération de la transition énergétique est délirante, hein, en ce moment, partout dans le monde, sauf en France, mais on est sur un truc absolument délirant. Encore ce matin, des chiffres fous, hein, d'accélération dans les énergies renouvelables, hein, des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui font... les Portugal, on est à 90% d'électricité faite par le renouvelable en janvier. Après décembre, pareil, 92%, avec des valeurs qui sont en train de porter ça de façon très très impressionnante quand même. Donc il y a des choses à jouer. Ah, puis je termine sur juste ce truc-là. Dans 7 ans, hein, l'industrie doit être à 45% d'énergie renouvelable. Donc bon courage à tous ceux qui n'y sont pas du tout, c'est-à-dire la plupart des industries. Hein. Donc ça, c'est obligatoire.
Merci à tous les deux. Damien Dierix donc pour Exane et Jean-François Robin pour Natixis. Dans un instant, des tours techniques sur le marché.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on file sur le marché, c'est notre engagement. Et c'est Andrea Tueni qui suit tout ça depuis Saxo Bank. Rebonjour Andrea. Et pour le moment, on continue à prendre quelques bénéfices.
Ouais, on a une tendance un peu plus lourde ce matin. Après, c'est pas une remise en cause de la dynamique de fond qu'on observe depuis le début de l'année sur les marchés, à savoir une dynamique qui est vraiment positive. On a des marchés qui ont fortement progressé depuis début janvier. Il en faudra plus pour remettre en cause cette dynamique-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marchés ont un peu plus de doutes par rapport à la semaine dernière. On avait eu une confirmation, on va dire, des attentes des marchés suite aux réunions des banques centrales. Depuis le début de l'année, les marchés s'attendent à des banques centrales qui soient plus accommodantes, avec potentiellement une première baisse de taux à fin d'année 2023, donc il y avait une réaction positive suite à cela. Et puis c'est vrai qu'en fin de semaine, les données macroéconomiques aux États-Unis et notamment le rapport sur l'emploi et l'ISM des services sont venus vraiment porter des doutes. On a un rapport sur l'emploi qui a été extrêmement solide aux États-Unis, avec à la fois sur les créations de postes, mais aussi sur le taux de chômage au plus bas depuis 1969. Donc du coup, ça vient un petit peu perturber les marchés. Et là maintenant, on croit peut-être de plus en plus à des banques centrales qui pourraient être au contraire un peu plus strictes en matière de politique monétaire. On va avoir beaucoup de speakers tout au long de la semaine, et notamment Jérôme Powell demain qui va s'exprimer, et ça sera intéressant de voir si Jérôme Powell va essayer, on va dire, de contrecarrer un petit peu, ou de contrarier plutôt les marchés sur ses perspectives de politique monétaire. Est-ce qu'il va adopter un discours plus strict en laissant sous-entendre que la Fed va faire plus en matière de politique monétaire pour lutter contre l'inflation, ou au contraire est-ce qu'il va apporter un discours qui relancera, on va dire, les marchés sur cette dynamique positive et sur cet espoir d'avoir des banques centrales plus accommodantes. En tout cas, ce matin, c'est vraiment un sujet qui pèse. On pensait, après ces réunions de banques centrales, sortir un petit peu de cette dynamique assez redondante, et là c'est vrai que ça va être compliqué, sachant qu'on a en plus les chiffres sur l'inflation la semaine prochaine. Après la solidité des données macroéconomiques aux États-Unis, les chiffres de l'inflation vont avoir eux aussi leur importance pour que les marchés puissent mieux jauger, on va dire, ces actions des banques centrales. Après, attention à cette divergence toujours entre les attentes des marchés et la réalité des actions des banques centrales. Ces divergences, à un moment donné, ça peut avoir un impact négatif sur le marché. Pour le moment, c'est une légère correction, une consolidation sur des niveaux qui restent extrêmement soutenus. Donc, encore une fois, rien d'inquiétant. Mais attention, à plus long terme, si cette divergence se maintient, on pourrait avoir, à un moment donné, une correction plus forte. Et là, du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué. Pour le moment, on va venir potentiellement s'appuyer sur le niveau de support qu'on citait tout à l'heure, 7115 points. Ça, c'est un niveau de support qu'il faudrait tenir. Au-delà, on pourrait glisser jusqu'à une zone de support autour des 7025-7050. En dessous de ce niveau, ça serait déjà un petit peu plus inquiétant. En tout cas, ça enverrait un signal plus négatif que sur les niveaux actuels. Mais voilà, pour le moment, encore une fois, voilà, ces réactions suite à la clôture de Wall Street vendredi, et encore une fois, ces données macroéconomiques qui viennent relancer le débat de l'action des banques centrales, qui pourrait être un petit peu moins accommodante que ce que le marché price depuis le début de l'année. Et on le voit, c'est très net sur d'autres actifs, notamment sur les devises et sur les taux. On a un repricing qui est assez fort. On voit un dollar qui se renforce assez nettement face à l'euro, qui serait sous les 1,08. On voit des taux qui se renforcent, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Europe. Avec des taux qui sont un niveau au-dessus, un cran au-dessus. Et c'est aussi assez flagrant sur le dollar-yen, qui là réagit très très fortement. On a une forte progression du dollar-yen, qui est à la fois due à ce renforcement des taux, à ce repricing qui se fait un petit peu sur le marché, mais aussi aux perspectives de changement de gouvernance à la Banque du Japon.
Andrea Tueni, donc Saxo Bank, qui nous accompagne ce matin. Merci beaucoup Andrea. On rappelle le CAC qui baisse d'un 56%, 7120 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Peine que j'en fasse.
Et on accueille Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Pour le groupe FICAD, et vous répondez à un auditeur qui veut savoir ce qu'il faut penser des marchés nordiques. Est-ce une bonne idée, nous?
Oui, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une idée intéressante parce que l'environnement macro est un peu complexe. Sur les États-Unis, il y a plein d'incertitudes. L'Asie, avec la Chine en particulier, c'est reparti entre guillemets comme en 14, mais on voit bien que c'est sujet à variation. Et puis sur les marchés européens, là, c'est le printemps en hiver. Sur le CAC 40, 11% et plus. Sur le DAX, 13%. En Italie, 13%. Il y a un rebond assez violent, et on se dit que quand il y a des rebonds violents comme ça, il risque d'y avoir de la volatilité. Alors c'est vrai que, par contraste, les marchés nordiques restent assez calmes, que ce soit le Danemark, la Norvège, la Finlande. Depuis le début de l'année, year to date, c'est entre 1 et 5% de progression. Alors il y a l'exception de la Suède, c'est 12%, mais globalement, sur ces marchés nordiques, ce qu'on voit quand même, mais c'est aussi parce que ce sont des marchés qui sont moins travaillés que les grands marchés, il y a moins de volatilité. Il y a moins de volatilité, et c'est vrai qu'il y a aussi des vrais facteurs de soutien sur ces marchés.
Alors, quels sont les facteurs de soutien, justement ?
Alors, les facteurs de soutien, il y a toutes ces grandes marques internationales qu'on connaît, les marques nordiques, mais il y a, au-delà des indices, il y a un paramètre très simple qu'on peut regarder, c'est l'endettement public. Et ça, c'est assez objectif. Moi, j'ai pris les chiffres Eurostat 2021, donc des chiffres validés. Fin 2021, en France, l'endettement public, on était à 112%. Ça a progressé depuis. En Allemagne, qui est le bon élève de l'Europe continentale, on était à 68%. La Suède, fin 2021, 36%. Le Danemark, 36%. Pareil. Donc voilà, on est sur des niveaux d'endettement. Puis alors, la Norvège, on va même pas en parler. Eux, ils ont carrément un fonds souverain assez plantureux grâce au pétrole de la mer du Nord. Alors c'est vrai que leur fonds souverain en 2022 a perdu 150 milliards d'euros de valeur. Mais il était avant cela à peu près à 1200 milliards d'euros de capitalisation pour un PIB norvégien qui est de l'ordre de 450-460 milliards d'euros. Donc on est sur des économies structurellement plus confortables, plus solides qu'en Europe continentale. Donc c'est pas une mauvaise idée de jeter un coup d'œil par là.
Bon, alors si on est épargnant, comment fait-on pour aller sur ces marchés?
Si on est épargnant, alors là, comme toujours, plutôt en fonds qu'en titres vifs, parce qu'en titres vifs, ça demande beaucoup d'expertise, c'est compliqué. Sur le marché français, on a une poignée de fonds spécialisés sur les marchés nordiques, mais je le disais tout à l'heure, faut le répéter, c'est un marché qui est étroit, on va pas trouver énormément de fonds. Et puis, quand même, faut garder en tête que c'est de la diversification, parce que précisément, il n'y a pas nécessairement une profondeur de marché aussi importante que sur les grands marchés européens ou bien sûr la Chine ou les États-Unis.
Voilà donc quelques idées. Est-ce que vous avez des exemples?
Alors des exemples, oui. Des exemples concrets auxquels votre auditeur peut s'intéresser. Le Nordea 1 Nordic Equity. Nordea, c'est une maison finlandaise, donc c'est cette culture scandinave. Alors faut pas confondre, donc le fonds s'appelle Nordea 1 Nordic Equity. Nordea, c'est le nom de la maison. Nordic Equity, c'est le nom du fonds. Parce qu'il y a une autre maison qui s'appelle Nordic Equity, mais qui, elle, est suédoise. Nordea, structurellement, c'est de la gestion de conviction. Là, avec ce Nordic Equity, on a 33 lignes, ce qui est très peu. Ça fait 8,50 par an en moyenne sur 10 ans. Un autre exemple, Norden SRA-ISR. Là, c'est un fonds français géré par Lazard Frères Gestion. Une quarantaine de lignes. Mais souvent, on va avoir des fonds qui sont gérés par des maisons locales. Deux exemples, Evli Nordic, c'est géré par des Finlandais, 10-80% par an sur 10 ans. Alors attention, c'est une moyenne, hein, il peut y avoir un peu de volatilité. Et puis un dernier exemple, Seb Nordic Future Opportunity, c'est géré par Seb, qui est une maison suédoise, 10-50 par an, là encore, sur 10 ans, c'est une moyenne. Donc oui, il y a quelques véhicules.
Ça donne plutôt envie d'y aller.
Oui, et ça apporte de la diversification. C'est relativement décorrélé du reste des marchés. Donc oui, on peut y aller dans des proportions, on le disait, raisonnables.
La diversification.
Modulo, la question de la valorisation, est-ce que c'est cher aujourd'hui? Bon, il faut se faire une opinion là-dessus.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric,
à bientôt,
Lorenzini,
et bon courage pour votre voix.
Ficade. Merci beaucoup Frédéric. Le marché parisien, lui, il continue à perdre un petit peu de terrain, moins 58%. On est à 7119 points pour l'indice CAC. Du côté des places européennes, on baisse également, moins 46%. Quant à l'eurodoll, on est à 1,0762.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Comme chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses dans BFM Patrimoine. N'hésitez pas à nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts vous répondent. Ce matin, c'est Christian Fontaine qui est de retour. Tout va bien, Christian?
On y va, tout va bien.
La rédaction du Revenu. Question d'Étienne. Il débute en bourse, Étienne, et il se demande s'il vaut mieux investir via un compte-titres, un PEA ou un contrat d'assurance-vie.
D'abord, bravo Étienne, parce qu'il se pose une bonne question en attendant, notamment les investisseurs débutants, à se poser une seule et unique question, quel titre acheter aujourd'hui?
Oui,
or, effectivement, c'est essentiel, les frais, mais il faut bien savoir que même si vous faites un bon choix de titre, si c'est pour que 80 ou une majorité de vos gains tombent dans les poches de l'administration fiscale, vous en conviendrez que l'opération déclaration sera blanche pour vous et c'est bien dommage. Alors pour éviter d'en arriver là, effectivement le choix de l'enveloppe fiscale est essentiel. En gros, aujourd'hui, si vous souhaitez investir en bourse en France, vous avez le droit à accès à trois enveloppes fiscales, le compte titres, le PEA et l'assurance vie. On aurait pu, on peut rajouter aussi tout ce qui est épargne salariale. Alors, avant d'aborder la fiscalité, il faut savoir que chaque enveloppe a sa philosophie. Si vous investissez, et donc c'est support d'investissement éligible. Le plus large, c'est le compte titres, puisque vous pouvez investir absolument dans tous les supports français, étrangers, que ce soit des titres en direct, des fonds d'investissement classiques ou des ETF, des actions ou des obligations ou des
titres spéculatifs. C'est le régime commun.
C'est le régime commun. Ensuite, PEA, lui, est réservé aux titres d'entreprises qui ont leur siège dans l'Union européenne. Ça fait quand même déjà un certain nombre de supports d'investissement, plus aux SICAV qui sont investis au minimum à 75% en titres éligibles. Et puis l'assurance vie, là, vous ne pouvez investir que dans les supports d'investissement qui sont référencés par votre compagnie au sein de votre contrat. Donc ça fait déjà beaucoup moins de supports. Il s'agit pour l'essentiel de fonds d'investissement au sens classique du terme, même si un certain nombre de contrats, et on en parlera tout à l'heure dans une autre question, permettent d'investir aussi dans des titres en direct et dans des ETF. Alors, ça, c'est pour les supports d'investissement. Maintenant, la fiscalité, régime de droit commun, compte-titres, vous êtes taxé, vous payez 30% d'impôt sur vos gains. Alors, flat tax. Alors, peut-être on va éviter de directement aller à l'essentiel et de dire à Étienne ce qu'il doit faire. Il doit privilégier, pour débuter en bourse, le PEA. Acheter donc ses titres favoris à travers le PEA. Pourquoi ? Parce que sur ses gains, il ne payera que 17,2% de prélèvements sociaux, il sera totalement exonéré d'impôts, sous condition, on va y revenir, alors que dans un compte-titres, ça va être 30%. Mais surtout, il ne payera pas, il ne passera pas par la case impôts à chaque encaissement de dividendes ou à chaque réalisation de plus-value. Il ne payera les prélèvements sociaux que lorsqu'il va retirer son argent de son PEA. La différence est très... alors, ça peut paraître subtil pour un certain nombre d'auditeurs ou téléspectateurs, mais la différence, elle est très importante, puisqu'en fait, vous n'allez pas donner un seul euro à l'État ni aux organismes sociaux tant que vous n'avez pas retiré d'argent de votre PEA. C'est-à-dire, en fait, ça peut durer des années. Mmh. Et pendant ce temps-là, l'argent dû, potentiellement dû aux organismes sociaux, mais il reste investi et les gains tombent dans votre poche. Au conseil, Étienne, donc le PEA, et puis alors vous pouvez, si vous avez des moyens relativement importants, en fait spécialiser vos enveloppes fiscales. Le PEA pour les actions européennes et plutôt le compte-titres et l'assurance vie pour tout ce qui n'est pas éligible au PEA, plutôt à l'international.
Même si on rappelle que dans le PEA, via de la technique financière, on peut faire des swaps de performance et du coup avoir des titres.
Oui, alors ça c'est
effectivement. Par exemple, japonaise.
Ça c'est effectivement, il y a des solutions pour investir à l'international dans le PEA, mais c'est plutôt pour les épargnants avisés, pas pour les débutants. Voilà ce qu'on pouvait dire à Étienne. Alors attention, le PEA, il y a quand même deux limites. La première, c'est que vous devez conserver vos plans au moins 5 ans pour profiter de la fiscalité la plus avantageuse. Alors, 5 ans, ça peut paraître long si on a 25 ans et qu'on fait ses débuts en bourse, mais il faut savoir que 5 ans, c'est la durée minimale donc on leur recommandée pour investir en bourse. Et puis, la deuxième contrainte, mais ça, lorsqu'on débute en bourse, et si Étienne a 25 ans, il ne va pas être concerné, c'est que les versements sont plafonnés à 150 000 euros pour le PEA et 225 000 euros avec PEA et PEA-PME.
C'est quand même de quoi voir
donc,
venir.
Ce qui laisse quand même de quoi voir venir, je ne vous le fais pas dire.
Versement.
Alors, du montant du versement et pas des montants des gains. Les plus-values peuvent être bien supérieures à ce montant.
Bon, on s'est tout dit sur ces trois vecteurs. Question de Laurent. Il envisage d'acheter une villa à la mer et il se demande si le propriétaire d'une résidence secondaire doit payer sa taxe d'habitation.
Alors oui, malheureusement, en fait, Laurent, vous devez suivre l'actualité patrimoniale. Vous avez bien vu que dès cette année, en fait, plus personne ne paiera la taxe d'habitation. Ça, c'est pour la résidence principale. C'est malheureusement pas le cas pour la résidence secondaire. Et c'est même pire, un certain nombre de communes, et leur nombre ne fait qu'augmenter, 255 villes aujourd'hui, mais sans doute plus demain, majorent la taxe d'habitation pour la résidence secondaire de quelque 60% à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, mais aussi en Dail, Saint-Jean-de-Luz ou Sanary-sur-Mer. Autre mauvaise nouvelle, et ça c'est une taxe, la taxe sur les ordures ménagères, en fait vous la payez même si vous allez que une ou deux semaines par an dans votre résidence secondaire, il n'y a pas un système de prorata temporis. Alors c'est beaucoup de d'auditeurs et d'abonnés aux revenus pestent sur cette taxe sur les ordures ménagères dont le montant n'arrête pas de progresser, mais malheureusement il n'y a pas de prorata temporis. Et pour noircir un tout petit peu encore le le tableau, il y a une révision, alors c'est un serpent de mer, mais ça finira par arriver, une révision des valeurs locatives hein, qui sert de base pour le calcul de la taxe d'habitation qui va avoir lieu. Ça pourrait encore entraîner une hausse de la taxe d'habitation. Pour les résidences secondaires, donc Laurent, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles pour vous. Et tout ce qui est exonération...
Ça, plus tout l'entretien et autres.
Plus tout l'entretien. Alors, c'est vrai que tout ce qui est exonération, abattement, réduction, déduction, tout ça, ce qui peut exister ou qui pouvait exister à une époque pour la, en matière de... Pour la résidence principale, n'existe pas tellement pour la résidence secondaire. La seule chose, c'est de mémoire, si vous investissez dans une résidence secondaire neuve, donc alors vous pouvez, comme lorsque vous investissez dans une résidence principale neuve, être exonéré selon les communes, temporairement et en partie, donc alors, de taxes foncières. Voilà. Mais donc, sinon, effectivement.
Sinon, il y a taxes d'habitation et taxes foncières.
Voilà, donc la résidence secondaire coûte cher notamment en frais d'entretien et en impôts.
Après, on peut toujours la louer, mais ça...
On peut toujours la louer, effectivement, c'est une astuce qui est de plus en plus répandue, qui permet d'amortir les frais. En quelques semaines par an, vous devriez pouvoir payer comme ça, faire face à vos obligations fiscales et aux dépenses minimales.
Question que nous envoie Arnaud. Il voudrait connaître votre avis sur... Amundi Patrimoine.
Alors Amundi Patrimoine, ben, c'est un fonds d'investissement. Ça fait partie des fonds dits patrimoniaux. Hein, dont l'objectif, un petit peu, c'est de vous faire profiter d'une partie de la hausse tout en réduisant la baisse en cas de retournement des marchés. Alors ça, c'est la théorie.
Ils ont connu une heure de gloire et puis une petite traversée du désert.
Vous anticipiez sur ce que j'allais donner, à savoir les performances. Effectivement, les performances sont souvent décevantes. Et lorsqu'on regarde l'année dernière, Amundi Patrimoine, -17,2. En 2022, je rappelle que le CAC 40 a fait -9,5% et -6% en dividendes réinvestis, compte -12,1% pour la catégorie. Et donc Amundi Patrimoine fait +4% depuis le début d'année. Et les petits camarades, en tout cas l'année dernière, type Eurose, DNCA, Sycomore Allocation Patrimoine ou Carmignac Patrimoine, font mieux. Alors, en fait, le problème de ce type de fonds, c'est qu'ils sont investis à la fois en obligations et à la fois en actions. Et on a bien vu l'année dernière, c'est que, qui était une année, c'est vrai, je vous l'accorde, particulièrement compliquée, avec à la fois une crise historique sur le marché obligataire et puis à la fois une baisse significative des marchés actions. Donc, ils ont été victimes, du retournement du marché sur leurs deux supports d'investissement. Donc, ça a particulièrement été douloureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, parce que cette exposition à la fois aux actions et aux obligations, elles ne datent pas d'hier, pour lesquelles le revenu a toujours été très prudent sur ce type de fonds. Nous, Arnaud, on vous conseillerait plutôt de vous construire votre propre fonds patrimonial. Hein. C'est la stratégie 60-40 du revenu. Vous investissez 60% sur des obligations, mais via un fonds en euros de contrat d'assurance vie, parce que là, vous ne prenez pas de risque. Vous profitez d'une garantie sur le capital. Et même si, comme l'année dernière, le marché obligataire s'est retourné, ben vous allez quand même afficher une performance de 1, 2 ou 3%. C'est mieux que, même si c'est inférieur à l'inflation, c'est mieux que rien. Donc, construisez-vous votre propre fonds patrimoniaux avec une poche sans risque, qui est le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie à hauteur de 60-80%. Et puis, pour les 20% restants, là, vous investissez en actions, marchés internationaux. Certes, il n'y a pas de garantie sur le capital, mais il y a un espoir de gain de 7 à 8% par an. Alors, ce type de stratégie, si vous la maintenez sur 1, 2 ou 3 années, vous pouvez afficher une performance annuelle en recul. Mais si vous l'affichez sur 10 ou 15 ans, techniquement parlant, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Voilà. Donc, derrière ces fonds patrimoniaux, hein, il peut se cacher des stratégies de gestion bien différentes. Donc, si vous vous intéressez aux fonds patrimoniaux, regardez le rapport mensuel du fonds. Regardez la proportion investie en obligations, la proportion investie en actions, quelles sont les principales lignes à la fois dans les deux grandes familles d'actifs, et vous ferez une idée, je dirais, du potentiel et du niveau de risque des fonds. Encore une fois, c'est une appellation générique, et sous cette appellation générique, il y a des produits financiers très différents.
Construisez vous-même votre fonds patrimonial.
Voilà, et suivez vos placements, impliquez-vous dans la gestion de vos affaires, c'est comme ça que vous gagnerez le plus.
Allez, question de Patrice, il vous reste 4 minutes pour lui répondre. Il a 100 000 euros à placer et il se demande quelle assurance vie serait la meilleure.
Ben, un contrat d'assurance vie primé par le revenu, Patrice. Forcément, un contrat d'assurance vie trophée d'or du revenu. Alors, Patrice, vous n'avez pas de chance, c'est qu'en fait, on travaille en ce moment même sur l'édition 2023. Donc,
oui, donc vous ne pouvez pas nous donner d'avant-première.
Voilà, donc on, pour l'instant, on va se baser sur le palmarès 2022. Alors, ensuite, tout dépend de la famille de placement où vous vous intéressez. Est-ce que vous êtes autonome ou pas dans vos décisions d'investissement? Est-ce que vous cherchez, alors 100 000 euros c'est déjà une somme significative, mais est-ce que vous envisagez après ça des versements complémentaires de montants encore plus importants? Est-ce que vous avez déjà oui ou non un contrat? Donc c'est vrai que nous au revenu on a l'habitude de distinguer les contrats grand public, des contrats internet, des contrats proposés par les gestionnaires de patrimoine indépendants. Vous en parlez souvent sur votre antenne. Alors il y a deux familles qui sont chères, qui me sont chères à titre personnel, c'est les contrats internet puisqu'ils sont souvent en pointe à la fois en termes de frais.
Mais il faut être autonome.
Mais il faut être autonome, bien sûr, dans les décisions d'investissement. Donc, quelques contrats trophées d'or du revenu, Boursorama Vie, qui est assuré par Generali, Fortunio Vie sur Avenir, Evolution Vie, distribué par AssuranceVie.com et assuré par Abbey Vie, et puis Titre à Vie de Alta Profit, donc qui permet d'investir dans des titres en direct. Bon, c'est le cas aussi de d'autres contrats. Et puis, vous savez, en matière d'assurance vie, mais c'est un peu comme en matière de placement, il faut toujours être diversifié. Et donc, oui, avec un contrat internet en pointe, avec des fonds d'investissement très performants, et puis aussi un contrat classique, parce qu'un contrat classique qui a fait ses preuves en matière de placement, il faut savoir rester classique à un certain moment donné. À faire, bien sûr, toujours pour le fonds en euros incontournable, 700 000 épargnants. Conservateur Helios Patrimoine, une valeur sûre 1,1 à 3,2% pour le rendement du fonds en euros en 2022. Et puis, RES Multisupport de la MACSF, c'est la mutuelle du corps médical qui a gagné l'année dernière, qui a affiché un taux canon de 2,5% sur le fonds en euros.
Cela étant dit, Patrice, pour 100 000 euros, il ne fait qu'un contrat ou justement
non, il peut faire,
il peut être bon de diversifier.
Il peut faire deux contrats. Il peut faire un contrat sur internet où là il va jouer donc la faiblesse des frais et il va l'investir. Il va investir son contrat sur des fonds en actions internationales performants, plutôt sur les UC. Et puis il aura un bon contrat traditionnel, classique, mais doté d'un fonds en euros solide. C'est vrai que les contrats sur internet, lorsqu'on regarde l'évolution dans le temps des fonds en euros, ça fait un peu du yo-yo. Tandis que les contrats classiquement qui font du fonds en euros leur fonds de commerce, ont tendance à afficher un niveau moyen supérieur. Donc il ne faut pas hésiter à diversifier deux contrats, un contrat pour l'USC, un contrat pour le fonds en euros.
Voilà quelques idées à avoir autour de l'assurance vie. Merci beaucoup, Christian.
Merci à vous.
Christian Fontaine, donc, et la rédaction du Revenu. Les questions que vous nous posez trouvent chaque jour leur réponse. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, vous en aurez fini avec ma voix. Vous retrouverez celle beaucoup plus douce de Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Sandra. Votre sommaire de 90 minutes business.
On va revenir sur Renault et Nissan qui valident leur rééquilibrage dans leur alliance. Conférence de presse commune ce matin à Londres. On va y rejoindre Justine Vassogne dans un instant. Et puis on parlera cinéma. Les fréquentations des salles, est-ce qu'elle est revenue à son niveau d'avant-crise? Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, sera avec nous. Il a les derniers chiffres des dernières sorties et ils sont plutôt bons. Et puis, la deuxième partie de l'émission avec Lorraine Goumont, on répond à vos questions, on vous aide à recruter aussi. Ce sera à 12h55 en télé, radio et sur les réseaux sociaux.
90 minutes business donc à suivre dans un instant. Le marché, lui, est en repli d'un 52%, 7124 points. BFM Patrimoine de retour demain matin dès 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.